Chapitre 71, le bonheur. Mise en œuvre de toutes les capacités, la mise en œuvre de toutes les capacités du corps et de l'esprit produit le bonheur. Plus ces capacités sont élevées et raffinées, plus la joie est pure et sans mélange. Bonheur et santé, il existe un lien si étroit entre la santé et notre bonheur que nous ne saurions avoir le second sans la première. Une connaissance pratique de la science de la vie humaine est nécessaire si nous voulons glorifier Dieu dans notre corps. C'est pourquoi il est de la plus haute importance que parmi les sujets d'études destinés aux enfants, la physiologie tienne la première place. Rares sont ceux qui connaissent la structure et les fonctions de leur propre corps et les lois de la nature. Nombreux sont ceux qui, faute de connaissances, vont ainsi à la dérive sans boussole ni ancre. Bien plus, ils n'ont nulle envie d'apprendre comment garder leur corps en bonne santé et comment se préserver des maladies. Une loi d'origine divine, notre bonheur est proportionné à nos œuvres accomplies avec désintéressement, motivées par l'amour divin, car dans le plan de la rédemption, Dieu a établi la loi de l'action et de la réaction. Faire le bien stimule les nerfs. Tout rayon de lumière répandu sur nos semblables se réfléchira sur nos propres cœurs. Chaque parole de bonté et de sympathie adressée à ceux qui sont dans la peine, toute action visant à soulager les opprimés, et tout don destiné à pourvoir aux besoins de nos semblables pour la seule gloire de Dieu retomberont en bénédiction sur le bienfaiteur. Ceux qui agissent ainsi obéissent à une loi du ciel et bénéficieront de l'approbation divine. La satisfaction éprouvée en faisant du bien à autrui communique à notre sensibilité une chaleur qui se diffuse à travers le système nerveux, active la circulation du sang et favorise l'hygiène mentale et physique. Chacun possède la source de son propre bonheur, une vie en Christ est une vie de quiétude. L'agitation, le mécontentement, l'inquiétude révèlent l'absence du Sauveur. Si le Christ vit en vous, votre vie sera remplie d'actions bonnes et nobles pour le Maître. Vous oublierez de vous servir vous-même, et vous vous unirez de plus en plus étroitement à ce cher Sauveur. Votre caractère deviendra semblable au sien, et tous ceux qui vous entourent verront que vous avez été avec Jésus et formé à son école. Chacun possède en lui-même la source de son propre bonheur ou de son malheur. Si nous le voulons, nous pouvons nous élever au-dessus des sentiments terre à terre qui sont le lot d'un grand nombre de gens. Mais tant que nous sommes infatués de nous-mêmes, le Seigneur ne peut rien faire pour nous. Satan nous présentera des projets ambitieux pour nous éblouir, mais nous devons toujours avoir devant les yeux le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Accumulez toutes les bonnes œuvres qu'il vous est possible de faire durant cette vie. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles, à toujours et à perpétuité. Une aspiration profonde, la Bible offre à nos regards les insondables richesses et les trésors éternels du ciel. La plus profonde aspiration de l'homme l'incite à rechercher son propre bonheur. La Bible approuve ce désir et nous montre que le ciel tout entier s'unira à l'homme dans ses efforts pour atteindre le vrai bonheur. Elle nous fait connaître les conditions auxquelles la paix du Christ est accordée aux humains. Elle nous parle d'une demeure de bonheur éternel et de joie où il n'y aura ni larmes ni besoins insatisfaits. Une gratitude permanente, s'il est quelqu'un qui devrait être continuellement reconnaissant, c'est bien le disciple du Christ. S'il est quelqu'un qui jouit d'un réel bonheur, même dans cette vie, c'est bien le chrétien fidèle. Nous devrions être les gens les plus heureux de la terre, et nous ne devrions pas nous excuser devant le monde d'être chrétiens. Promesse indéfectible, voici Jésus, la vie de toute grâce, de toute promesse, de toute ordonnance, de toute bénédiction, Jésus, substance, gloire et parfum, la vie elle-même. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Le sentier royal tracé pour le racheter n'est pas enveloppé de désespérantes ténèbres. Il est vrai que notre pèlerinage serait solitaire et pénible en l'absence de Jésus. « Je ne vous laisserai pas orphelin », a-t-il dit. Recueillons donc toute promesse écrite. Répétons-la de jour et méditons-la de nuit, et vivons heureux. Notre mot d'ordre, Jésus désire que vous soyez heureux, mais vous ne pouvez pas l'être si par ailleurs vous agissez à votre guise et si vous suivez les impulsions de votre cœur. Nos idées, nos traits de caractère sont entièrement humains, et nous ne devons pas leur donner libre cours. Le moi doit être crucifié, non pas de temps à autre, mais chaque jour, et le physique, le mental et le spirituel doivent être soumis à la volonté de Dieu. La gloire de Dieu, la perfection du caractère chrétien doivent être le but, l'objectif de notre vie. Les disciples du Christ doivent l'imiter sur le plan du caractère. Votre mot d'ordre doit être comme le Christ, non pas comme votre père ou votre mère, mais comme Jésus-Christ. Vous devez être caché en lui, revêtu de sa justice, pénétré de son esprit. Un bonheur fragile, le bonheur qu'on recherche par égoïsme, en dehors du sentier du devoir, est chancelant, intermittent et transitoire. Il passe, ne nous laissant que solitude et regret. Mais le service de Dieu procure paix et joie. Le chrétien n'est pas abandonné dans des sentiers incertains, il n'est pas livré à de vains regrets et au désappointement. Si nous ne jouissons pas des plaisirs de cette vie, nous pouvons être heureux malgré tout en regardant à celle qui est à venir. Bonheur et paix du cœur, la cause profonde de la ruine de beaucoup de foyers réside dans le désir des apparences. Hommes et femmes font tout pour paraître plus riches que leurs voisins. Mais même lorsqu'ils réussissent dans leurs efforts désespérés, ils ne sont pas réellement heureux. Le vrai bonheur vient d'un cœur en paix avec Dieu. Le pouvoir de l'amour, d'après le monde, l'argent équivaut à la puissance. Mais du point de vue chrétien, c'est l'amour qui est une puissance. La force intellectuelle et spirituelle est contenue dans ce principe. L'amour au sens noble du terme a notamment le pouvoir de faire le bien, et il ne peut rien faire d'autre. Il préserve de la discorde et de la détresse, et procure le vrai bonheur. La richesse est souvent une influence qui corrompt et détruit. La force est capable de faire du mal. Mais la vérité et la bonté sont le propre du véritable amour. Une règle d'or, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, vous aussi, faites-le de même pour eux. Le Sauveur a enseigné ce principe non pour rendre les humains malheureux, mais pour les rendre heureux. Car aucun autre moyen ne saurait procurer le bonheur. Dieu désire que les hommes et les femmes vivent la vie supérieure. Il leur accorde la vie comme un bienfait, non pas seulement pour qu'ils acquièrent des richesses, mais pour qu'ils développent leurs facultés élevées en accomplissant la tâche qu'il a confiée aux hommes, celle qui consiste à s'enquérir des besoins de leurs semblables et à y répondre. L'homme ne devrait pas travailler envers ses propres intérêts égoïstes, mais pour le bien de tout ce qui l'entoure, répandant sur eux ses bienfaits par son influence et ses actes de bonté. Ce plan de Dieu a été manifesté dans la vie du Christ. L'action engendre le bonheur, quelle que soit la position que nous occupons et si limitée que soient nos capacités, nous avons une œuvre à accomplir pour le Maître. Nos vertus se développent et arrivent à maturité par l'exercice. Lorsque l'âme est enflammée par la vérité de Dieu, nous ne pouvons pas rester inactifs. La joie que nous éprouverons en agissant nous récompensera dès à présent de tous nos efforts. Ceux-là seuls qui ont éprouvé la joie résultant d'un effort d'abnégation au service du Christ peuvent en parler en connaissance de cause. Il s'agit d'une joie si pure, si profonde qu'aucun langage ne saurait l'exprimer. Trouver sa joie dans celle des autres, le Christ fait de son Église un temple magnifique pour Dieu. Là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Son Église est le parvis de la vie sainte. Elle est pleine de dons variés et revêtue de l'Esprit Saint. Le ciel assigne une tâche particulière à chaque membre de l'Église sur la terre, et tous doivent puiser leur joie dans la joie de ceux à qui ils viennent en aide et auxquels ils font du bien. The Signs of the Times, 1er mars 1910. Un effet bienfaisant, si l'esprit est libre et joyeux, à cause du sentiment que l'on fait le bien et de la satisfaction que l'on éprouve à rendre les autres heureux, cela crée une joie qui réagit sur tout l'organisme, qui favorise la circulation du sang et fortifie tout le corps. La bénédiction de Dieu est un pouvoir de guérison, et ceux qui font aux autres du bien en abondance feront l'expérience de cette merveilleuse bénédiction dans leur cœur et dans leur vie. Ceux qui suivent le sentier de la sagesse et de la sainteté ne seront pas troublés par de vains regrets au sujet d'heures mal employées, et ils n'éprouveront ni tristesse ni angoisse comme le font certains, à moins qu'ils ne se livrent à des distractions frivoles et futiles. Le bonheur à la portée, le monde est plein d'esprits insatisfaits qui ne se rendent pas compte des joies et des bienfaits qui sont à leur portée, plein de gens qui sont sans cesse à la recherche de joie et de satisfaction qu'ils n'éprouvent pas. Ils aspirent toujours à quelque bienfait espéré et lointain plus grand que celui qu'ils possèdent et sont toujours en proie aux déceptions. Ils cultivent l'incrédulité et l'ingratitude parce qu'ils n'aperçoivent pas les bénédictions qui sont là, présentes sur leur chemin. Ils sont mécontents des bénédictions ordinaires et quotidiennes de la vie, comme les enfants d'Israël l'étaient à l'égard de la manne. Les amusements ne sont pas sans risque, les amusements excitent l'esprit, mais il en résulte inévitablement un abattement. Un travail utile et un exercice physique auront un effet plus bénéfique sur l'esprit et fortifieront les muscles, activeront la circulation et contribueront beaucoup au rétablissement de la santé. Cherchez le bonheur là où il n'est pas, message adressé à un jeune homme, voici un an, nous avons travaillé en votre faveur. J'ai vu à quel danger vous êtes exposé, et nous étions désireux de vous sauver. Mais nous avons constaté que vous n'aviez pas la force de tenir les résolutions qui avaient été prises. Cette question me préoccupe. Tandis que je me trouvais à Battle Creek au mois de juin, j'ai vu que vous n'aviez fait aucun progrès parce que vous n'avez pas laissé une bonne marque sur votre passage. La religion ne vous satisfait pas. Vous vous êtes écarté de Dieu et de la justice. Vous avez recherché le bonheur là où il n'est pas, dans des plaisirs défendus, et vous n'avez pas le courage moral de confesser et d'abandonner vos péchés afin d'obtenir miséricorde. Ne pas donner libre cours aux penchants du cœur naturel. De quel bien voudrait-il nous priver? Il, Jésus-Christ, voudrait nous priver du privilège qui consiste à abandonner les passions naturelles du cœur charnel. Nous ne saurions nous mettre en colère quand bon nous semble et bénéficier d'une conscience nette et de l'approbation de Dieu. Sommes-nous disposés à y renoncer? La satisfaction des passions basses nous rend-elle plus heureux? C'est le contraire qui est vrai, et c'est pourquoi des restrictions nous sont imposées dans ce domaine. Le fait de nous mettre en colère et de cultiver un mauvais caractère n'augmentera pas notre bonheur. Suivre les penchants de notre cœur naturel ne nous rendra pas heureux. Serons-nous rendus meilleurs en leur donnant libre cours? Nullement. Cela va jeter une ombre dans nos familles, et un voile sur notre bonheur. S'abandonner aux désirs naturels ne fera que nuire à la constitution et détruire l'organisme. C'est pourquoi Dieu veut que nous modérions nos désirs, que nous maîtrisions nos passions, et que nous tenions les rênes de l'homme tout entier. Et il a promis de nous donner la force voulue si nous nous engageons dans cette voie. Un élixir de longue vie, le courage, l'espérance, la foi, la sympathie, l'affection favorise la santé, et prolonge la vie. Un esprit content et heureux contribue à la santé du corps, et à la force de l'âme. Un cœur joyeux est un bon remède. Une personne dont l'esprit est calme et satisfait en Dieu est sur la voie de la santé. Répercussion de l'obéissance sur l'organisme, la santé, la vie et le bonheur sont le résultat de l'obéissance aux lois physiques qui régissent nos corps. Si notre volonté et nos voix sont en harmonie avec la volonté de Dieu, et avec ses voix. Si nous faisons le bon plaisir de notre Créateur, il gardera notre organisme en bonne santé, et rétablira nos capacités morales, mentales et physiques afin qu'il puisse se servir de nous pour sa gloire. Son pouvoir de guérison se manifeste sans cesse dans notre corps. Si nous coopérons avec lui dans son œuvre, il en résultera la santé et la joie, la paix et la capacité d'agir. La guérison des invalides, que les invalides fassent quelque chose, d'utile, au lieu d'occuper leur esprit à de simples jeux, ce qui les rabaisse à leurs propres yeux et les porte à croire que leur vie est inutile. Il faut garder le pouvoir de la volonté en éveil, car lorsqu'elle est stimulée et convenablement dirigée, la volonté est un puissant calmant pour les nerfs. Lorsqu'on les occupe, les invalides sont beaucoup plus heureux et leur guérison en est facilitée. Bienfait d'une vie en milieu rural, conseil adressé à une mère, il est vrai qu'à la campagne, vous ne seriez pas entièrement à l'abri des difficultés et des soucis. Mais vous vous épargneriez bien des maux et vous fermeriez la porte à de multiples tentations qui risquent de submerger l'esprit de vos enfants. Ceux-ci ont besoin d'occupation et de variété. La monotonie de leur maison les rend mal à l'aise et agités. Ils ont pris l'habitude de se mêler aux mauvais garçons de la ville, et ils ont ainsi acquis une éducation médiocre. Vivre en milieu rural leur serait très bénéfique. Une vie active, en plein air, favoriserait la santé de l'esprit et du corps. Ils devraient disposer d'un jardin à cultiver, où ils prendraient du plaisir et où ils pourraient s'occuper utilement. La culture des plantes et des fleurs favorise le développement du goût et du discernement. De plus, le fait de se familiariser avec les œuvres utiles et merveilleuses de Dieu exerce une influence qui affine et ennoblit l'esprit, parce qu'elle les associe au Créateur et Maître de toutes choses. Chercher à faire prévaloir nos droits, ceux que nous aimons peuvent parler ou agir inconsidérément, et nous blesser profondément. Ce n'était pas leur intention de le faire, mais Satan grossit à nos yeux la portée de leurs paroles et de leurs actes, c'est une flèche de son carquois qui a réussi à nous transpercer. Nous nous raidissons pour résister à celui qui nous a blessés, pensons-nous, et par là même nous donnons prise aux tentations de l'ennemi. Au lieu de prier Dieu pour lui demander la force de nous opposer victorieusement à l'adversaire, nous souffrons que notre bonheur soit terni en affirmant ce que nous appelons nos droits. Nous accordons ainsi à Satan double avantage. Nous extériorisons nos sentiments blessés et Satan se sert de nous pour blesser et décourager ceux qui n'avaient pas l'intention de nous faire de la peine. Les exigences du mari peuvent parfois ne pas sembler raisonnables à la femme. Mais si avec calme et bonne foi elle revoyait la question en essayant de se mettre à sa place, elle s'apercevrait qu'en abandonnant son point de vue et en adoptant le sien, même s'il était contraire à ses propres sentiments, cela leur épargnerait bien des tristesses et les délivrerait des tentations de Satan. Dieu enlève les obstacles au bonheur, Dieu recherche notre vrai bonheur. Si quelque chose y fait obstacle, il veille à ce que cet obstacle soit ôté. Il déjouera nos plans, il décevra nos espoirs et nous fera passer par des désappointements et des épreuves pour nous révéler ce que nous sommes. Le péché est la cause de tous nos malheurs. Si nous voulons jouir de la vraie paix et de la joie intérieure, le péché doit être éliminé. Malheureux dans le royaume de Dieu, si ceux qui ont passé leur vie dans la révolte contre Dieu pouvaient être soudain transportés là où, dans une atmosphère de sainteté, toutes les âmes débordent d'amour et où tous les visages rayonnent de joie, s'ils entendaient les accords sublimes de la musique céleste et y contemplaient les flots de lumière qui, émanant de la face de Dieu, enveloppe les élus, pourraient-ils se joindre aux phalanges célestes et supporter l'éclat de la gloire de Dieu et de l'agneau? Certainement pas. Des années de grâce leur ont été accordées pour se préparer à entrer dans le séjour de la félicité, mais ils ne se sont jamais appliqués à aimer la pureté, et à parler le langage du ciel. Maintenant, il est trop tard. Une vie de rébellion contre Dieu les a disqualifiés pour le royaume. La pureté, la sainteté et la paix qui y règnent les mettraient à la torture. La gloire de Dieu serait pour eux un feu consumant. Ils ne demanderaient qu'à s'enfuir de ce saint lieu. Ils appelleraient sur eux la destruction pour échapper à la présence de celui qui les a rachetés. La destinée des injustes résulte de leur choix. De la part de Dieu, elle est un acte de justice et de miséricorde. La perspective d'une vie joyeuse, ayons tous confiance en Dieu. Frayez-vous un chemin à travers l'obscurité dans laquelle Satan plonge votre route, et saisissez le bras de Jésus, le puissant. Confiez-lui votre cause. Que votre prière soit, « Seigneur, je t'adresse ma requête. Je me confie en toi, et je sollicite la bénédiction que tu jugeras utile de m'accorder pour mon présent, pour mon avenir et pour mon bien-être éternel. Et quand vous vous relevez, croyez. Lorsque l'ennemi vient avec ses ténèbres, chantez et parlez avec foi, et vous verrez que vos chants et vos paroles vous ont porté vers la lumière. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Ceux qui le font ont une vie joyeuse. Rien de désagréable n'émane de leurs lèvres ou de l'atmosphère qui entoure leur âme, car ils ne croient pas être meilleurs que les autres. Cachez-vous en Jésus-Christ. Alors, la vérité de Dieu vous qualifiera sans cesse en vue de l'avenir, de la vie éternelle. Quand vous faites confiance au Tout-Puissant, votre expérience n'est pas empruntée. Elle est votre propre expérience. Une joie grandissante, quand nous entrons dans le repos de Jésus, le ciel commence ici-bas. Il nous invite. Venez, apprenez de moi, nous répondons, et pour nous commence la vie éternelle. S'approcher constamment de Dieu par le Christ, c'est le ciel. Et plus nous demeurons dans ce bonheur céleste, plus nous voyons la gloire s'ouvrir devant nous. Plus nous apprenons à connaître Dieu, plus intense est notre bonheur. Aussi longtemps que nous marchons avec Jésus, nous sommes comblés par son amour, rassasiés par sa présence. Nous pouvons obtenir ici même tout ce que notre nature est capable de recevoir. Mais qu'est-ce que ceci en comparaison de l'au-delà? Là ils sont devant le trône de Dieu et lui rendent un culte jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera plus, ni aucune chaleur. Car l'agneau qui est au milieu du trône les fera paître et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux.